croissance économique mondiale.
Les explications de Stéphanie Schuller du service environnement de RFI. RFI, il est 18h10 à Paris et on retrouve Véronique Rigolet pour le décryptage.
Radio G. 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, mardi, on sera avec Charles qui viendra avec deux personnes tout droit arrivées du Québec qui viendront donc échanger avec des élèves du collège Jean Rostand. Mercredi, on sera avec Quentin Ménard et François Gobert pour parler du cinéma Sprint. Et jeudi, on sera en culture avec Le Quai. Et ce soir, on va parler, nous, de livres et de la plus grande bibliothèque d'Angers, la bibliothèque Toussaint. Car ça y est, elle va fermer ses portes très bientôt, pour un petit moment quand même, jusqu'à l'été 2028. Mais pas de panique, pour substituer à la bibliothèque de la ville a mis en place plein de services. On sera avec Marc-Édouard Gauthier, directeur des bibliothèques municipales d'Angers, pour en parler ce soir. On aura aussi la Minute Sport de Paul et on se quittera avec un podcast de Pensée Locale. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va remonter un petit peu le temps jusqu'en 1912, lorsque le Titanic a coulé, mais que cela aurait pu être évité avec plein de petits détails. On écoute ça tout de suite.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'Histoire. On a beaucoup écrit sur l'enchaînement de détails qui ont fait que le Titanic ait fini sa course au fond des mers. Mais il y a des gestes encore plus étonnants qui auraient peut-être évité la catastrophe. Le Titanic allait partir de Southampton lorsqu'on remanie au dernier moment, sans doute pour une question de planning, la liste des officiers. David Blair fut par exemple retiré de la liste de l'équipage. Il rangea alors rapidement ses affaires et quitta le navire en oubliant un détail. Donner la clé de son casier à son remplaçant. Et ce qu'il y avait dans le casier aurait peut-être pu changer l'histoire de ce navire et ses 1522 victimes. Un des rescapés, membre d'équipage, raconte qu'on ne lui avait pas donné de jumelles pour la traversée. Il est probable qu'avec cette optique, il aurait peut-être pu voir l'iceberg bien avant qu'il ne découpe la coque du bateau. Oui, vous l'avez compris, les fameuses jumelles étaient dans le casier de l'officier débarqué. S'il avait donné ses clés, son remplaçant aurait pu s'en servir. On ne le saura bien sûr jamais, mais les fameuses clés ont été conservées. Elles ont même été mises aux enchères en 2007 et acquises pour 120 000 euros. Le diable se cache dans les détails. À bientôt pour un nouveau Graal de l'Histoire.
Les podcasts du Graal de l'Histoire que vous pourrez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et juste avant d'accueillir notre invité de ce soir, une petite annonce. Si jamais vous aimez la musique, un apéro-concert avec Indira Maze aura lieu le vendredi 28 mars à partir de 19h au sein de la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin à Angers. Et on peut maintenant accueillir notre invité du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je le disais tout à l'heure, du coup, ce soir, on parle des bibliothèques d'Angers et plus précisément d'une, du coup, de la bibliothèque Toussaint. Et pour en parler, on est avec Marc-Édouard Gauthier. Pardon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des bibliothèques municipales d'Angers. Alors, du coup, ce soir, on parle de ce lieu qui est un petit peu emblématique à Angers. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter brièvement la bibliothèque Toussaint? Qu'est-ce que c'est?
Oui, cette bibliothèque Toussaint, beaucoup d'Angevins la connaissent, la fréquentent ou l'ont fréquentée et ont des souvenirs qui s'y rattache important. C'est la plus grande bibliothèque du réseau de la bibliothèque municipale d'Angers. Elle a été ouverte en avril 1978, elle a 47 ans. C'est elle qui accueille toutes les collections patrimoniales du dépôt légal de la bibliothèque, d'où un volume extrêmement important dans les sous-sols. Et puis, les parties bien connues du public, ce sont ces trois étages spacieux, très lumineux, avec ces belles grandes verrières qui donnent sur le jardin des Beaux-Arts, qui accueille plus de 3 kilomètres de collections de livres en libre accès, empruntables, pendant 3 semaines, animés très souvent de conférences, de rencontres littéraires, de différentes animations. Donc un lieu très vivant, un lieu où les Angevins aiment se retrouver, se donnent rendez-vous, et donc un vrai lieu de convivialité et de culture à Angers, et qui à 47 ans a besoin de quelques travaux de remise en forme, de rafraîchissement pour repartir pour de nouvelles décennies.
Et alors du coup, quelles sont les spécificités de cette bibliothèque par rapport aux autres bibliothèques de la ville d'Angers? Elle accueille peut-être des documents qu'il n'y a pas dans les autres bibliothèques?
Oui, comme je disais, il y a les collections patrimoniales, mais surtout aussi pour la très grande majorité du public, c'est l'importance des collections. En fait, dans les plus grandes de nos bibliothèques de quartier, à La Roseraie, à Nelson Mandela dans les Hauts-de-Saint-Aubin ou à Montplaisir, c'est trois bibliothèques qui font près de 800 mètres carrés, on a à peu près entre 30 et 40 000 volumes empruntables. À Toussaint, on en a plus du triple, du quadruple, on est à 150 000 volumes empruntables en libre accès. Donc ça, c'est déjà la masse, la quantité des volumes fait la richesse et la particularité de Toussaint. Et puis effectivement, la bibliothèque Toussaint accueille aussi les collections patrimoniales de la ville d'Angers, celles qui appartiennent à l'État aussi à Angers et qui sont déposées, confiées à la bibliothèque municipale. Donc on a toutes les collections qui ont été confisquées à la Révolution, notamment 700 manuscrits du Moyen-Âge, des incunables, des reliures d'art tout à fait précieuses. Et puis on a également le dépôt légal des imprimeurs de la région depuis 1943. Les imprimeurs doivent de la région Pays de la Loire doivent déposer un exemplaire de tout ce qu'ils impriment dans une bibliothèque par région. Et donc pour la région Pays de la Loire, c'est Angers qui les accueille, ce qui nous permet d'avoir certains livres une quinzaine de jours, parfois avant les libraires eux-mêmes, par le circuit de diffusion. Et donc ça, ce sont des collections qui appartiennent à l'État, qui sont confiées à la ville et qui sont aussi extrêmement intéressantes sur le patrimoine angevin. Et dans le futur Toussaint, dans le Toussaint rénové, on espère avoir de meilleurs outils pour pouvoir les partager avec le public.
Alors ça fait un très gros volume d'activité. Justement, comment la bibliothèque elle gère ce volume d'activité? Il y a combien de salariés qui travaillent là-bas?
On est un petit peu plus d'une cinquantaine aujourd'hui, donc 50 collègues qui vont devoir être répartis, dispersés sur le réseau pendant la période temporaire de chantier.
Alors il y a aussi beaucoup de visiteurs, je crois à peu près 1000 visiteurs quotidiens. C'est quel type de personnes qui fréquentent la bibliothèque? Plutôt des étudiants, des familles ou un peu de tout?
Alors c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est vraiment tout type de public. On a les plus jeunes. On reçoit beaucoup d'assistantes maternelles, de familles. On a des abonnés qui ont moins d'un an, auxquels leurs parents tiennent à lire déjà des histoires. C'est quelque chose de tout à fait important. Beaucoup de jeunesse. C'est un tiers du public est constitué par des jeunes de moins de 14 ans. Et puis des lycéens, des étudiants. En moindre quantité, c'est pas ce public-là qu'on vise le plus, parce que les étudiants ont de belles bibliothèques universitaires à Angers, mais on les compte en grand nombre tout de même. Ils aiment profiter des tables de travail, des espaces avec la vue très très agréable sur le jardin des Beaux-Arts. Et puis un public d'adultes, évidemment. Il y a d'une part, on a une très grosse masse de jeunes parents, 25-45 ans, qui viennent pour leurs enfants, mais qui se servent aussi, qui en profitent eux-mêmes. Et puis, beaucoup de retraités. On a un petit creux dans la fréquentation entre 45 et 60 ans, mais public qui est tout à fait présent néanmoins, mais qui est proportionnellement moins présent. Et puis, à partir de la retraite, on sent que les Angevins aiment bien reprofiter de leur temps libre pour lire.
Et si on parle un petit peu plus maintenant du projet de rénovation en lui-même, alors au tout début, il y a eu des démarches participatives qui ont été menées entre décembre 2020 et mars 2021, si je reprends les dates.
Oui, tout à fait.
Comment ça a influencé le projet de rénovation? Vous êtes inspiré de ces démarches?
Oui, alors on était donc l'année 2020, malgré tous ces accidents, tous ces événements pénibles, a quand même été une année de travail importante et le début de l'année 21 également pour réaliser ce qu'on appelle le programme architectural et le programme des usages que l'on voudrait développer dans le futur Toussaint, dans le Toussaint rénové. Et donc on a interrogé beaucoup d'Angevins. D'une part, des habitués, des fidèles. On a des Angevins qui reviennent quasiment tous les jours, ou au moins toutes les semaines à Toussaint. Donc on les connaît. Et donc on a tenu à les apprécier, à prendre, à sentir leurs besoins, leur ressenti sur Toussaint. Donc là, ça a été des enquêtes, des longs entretiens d'une bonne demi-heure facilement avec plus de 250 d'entre eux. On a veillé à ce qu'il y ait soit un panel quand même représentatif de toutes les tranches d'âge, de toutes les catégories sociales, de tous les usages que l'on percevait de la bibliothèque. Et puis également sur Écrivons-Angers, on avait ouvert place à des contributions libres. Et là, on a eu plus de 250 réponses aussi, souvent très circonstanciées, très développées, donc extrêmement intéressantes, qui ont confirmé un certain nombre de nos intuitions, qui nous ont donné quelques idées nouvelles aussi, pour définir ce programme, après qu'on a défini avec des architectes, puis dont nous poursuivons le développement avec les architectes titulaires du concours de rénovation de tout ça.
Justement, ce projet de rénovation, on va continuer à en parler tout à l'heure. Vous restez avec nous, Marc-Edouard. On va d'abord faire une pause musicale sur le 100.5 FM. On écoute The Kindness of a Stranger.
They found Mary Bellows cuffed to the bed, with a rag in her mouth and a bullet in her head. Oh Mary Bellows, she'd grown up hungry, she'd grown up poor, she left her home in Arkansas. Oh, Mary Bellows, she wanted to see the deep blue sea. She traveled across Tennessee. Oh, Mary Bellows. She met a man along the way. He introduced himself as Richard Slade. Up on me, rebellious. Oh, Mary thought that she might die, and she saw the ocean for the first time. Oh, Mary Bellows, she checked into a cheap little place. Richard Slade carried in her old suitcase. Oh, Mary Bellows, "I'm a good girl, sir," she said to him. "I couldn't possibly permit you in." Oh, oh, me, your babe knows. Slade tipped his hat and winked his eye and turned away without goodbye. She sat on her bed and thought of home, with the sea breeze whistling all alone. Up on me, rebellious.
eyes, she crossed the floor and undid the latch on her front door. Oh, balmy bellows. They found her the next day, cuffed to the bed, the rag in her mouth and a bullet in her head.
On écoutait The Kindness of Strangers sur le 101.5 FM et vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est toujours avec Marc-Édouard Gauthier, directeur des bibliothèques municipales d'Angers. Et du coup, tout à l'heure, on présentait un petit peu la bibliothèque Toussaint. Mais si on s'intéresse maintenant aux travaux de rénovation, du coup, c'est prévu jusqu'à l'été 2028. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire dans les grandes lignes le projet de rénovation? Qu'est-ce qui va être fait dans la bibliothèque Toussaint?
Alors, c'est une bibliothèque qui a besoin d'un grand coup de rénovation parce que c'est une véritable passoire thermique. On a beaucoup d'infiltration, donc le bâtiment a vieilli et mérite d'être repris. Par exemple, toutes les très belles verrières, les très grandes verrières vont être intégralement remplacées par du double vitrage. Actuellement, on est en simple vitrage, donc on chauffe bien les pattes des oiseaux. Mais d'un point de vue énergétique, le bâtiment avait besoin vraiment d'une nouvelle fraîcheur. Il sera entièrement repensé de ce point de vue-là. On aura des récupérations d'eau pluviale, on aura sur le grand toit terrasse. Il sera entièrement couvert de panneaux photovoltaïques, si bien que par exemple la bibliothèque devrait être autosuffisante dans sa production d'électricité et même probablement, on l'espère, excédentaire, de façon à pouvoir alimenter en électricité la galerie David d'Angers qui est juste à côté. Donc il y avait déjà ce problème technique. Et puis il fallait évidemment, on n'allait pas priver les Angevins de leur bibliothèque sans profiter de la rénovation, de la régulation de ces problèmes pour apporter un peu du neuf. Les usages dans les bibliothèques ont changé en 47 ans. Comme je vous le disais, c'est aussi un lieu de retrouvailles d'Angevin. Ils se donnent rendez-vous parfois à Toussaint pour travailler ensemble, pour échanger aussi tout simplement, échanger autour des livres, échanger autour des collections. Et donc la jeunesse aussi s'est considérablement accrue. En 47 ans, l'usage des bibliothèques pour les enfants, les scolaires, s'est très fortement développé. Donc, il y avait les espaces étaient à repenser. Une des grandes nouveautés, c'est qu'on mettra les espaces jeunesse qui actuellement sont au deuxième étage, seront au rez-de-chaussée. On voulait aussi profiter davantage du jardin. Tous les Angevins et les touristes aussi nous disent. Quel dommage de pas pouvoir passer la verrière, franchir la verrière pour aller dans le jardin. Ou quand on est dans le jardin, à l'inverse, il faut faire le tour du pâté de maison pour trouver l'entrée de la bibliothèque. Et donc, un de nos soucis, c'était de rendre la bibliothèque traversante. Et donc, il y aura une entrée qui sera percée dans le cloître de l'abbaye Toussaint pour une seconde entrée pour pénétrer dans le bâtiment, sachant que l'entrée actuelle va demeurer telle quelle au même endroit. On aura également, pour profiter davantage du jardin, une sorte de jardin clos. En fait, on pourra sortir de la bibliothèque pour aller dans le jardin des Beaux-Arts, tout en restant dans l'enceinte de la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on va y avoir une petite enclave close, clôturée, et qui nous permettra d'aller lire la presse ou une bande dessinée, un roman, à l'ombre des arbres classés du jardin des Beaux-Arts. Donc on a beaucoup de modifications comme ça. Et puis je vous disais aussi que un de nos souhaits, c'était de pouvoir davantage mettre en valeur, partager les collections patrimoniales. Et donc on aura une sorte de grande salle qui servira de musée. Musée du patrimoine écrit, musée de nos collections, où on pourra exposer en permanence nos plus beaux manuscrits enluminés, par exemple, ou nos reliures les plus somptueuses, des autographes aussi de grands auteurs, de grands artistes de l'époque moderne ou du 19e siècle, et avec plus d'espace aussi pour accueillir, à la fois continuer d'accueillir les classes, mais aussi accueillir des groupes de touristes, des associations, etc. On aura également un espace supplémentaire, deux types d'espaces supplémentaires, une ludothèque, ça ce sera tout nouveau, ce service n'existe pas en centre-ville, il a beaucoup de succès dans les quatre bibliothèques de quartier où il y a déjà une ludothèque, et puis on manque aussi de salles d'accueil, d'animation, de conférences, à Toussaint. Ceux qui nous fréquentent régulièrement savent qu'on les accueille dans la salle d'études patrimoniales, qui est une salle que nous déménageons 3-4 fois par semaine pour enlever les tables, remettre des chaises, la disposer différemment, ce qui n'est pas très confortable pour tout le monde, y compris pour les équipes. Et donc là, on aura des belles salles, une grande salle d'une centaine de places pour des conférences ou des rencontres, et puis une salle d'atelier d'une trentaine de places où on pourra faire des ateliers d'écriture, des cours, des rencontres, des salles de des concours autour de différents jeux, etc.
Alors, il y a aussi un ancien cimetière qui a été découvert sous le site où l'extension était prévue. Comment ça a influencé le chantier ou les plans de rénovation de
Alors, ça a influencé le chantier déjà en le reportant, puisque en fait, on avait initialement pensé fermer tout ça au tout début de janvier 2024. Et lorsque a été pris un arrêté de fouille qui prescrivait plus d'une année de fouille avec une équipe de 10 archéologues en permanence, et puis beaucoup d'options et de risques d'allongement du chantier de fouille. Donc ça, c'était en novembre 2023, on a décidé de reprendre les plans. Ce chantier de fouille aurait fait vraiment déraper le budget de l'opération, de cette rénovation et de cette construction, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on rajoute presque 2000 m² sur ce projet. Et donc, en fait, l'idée qui a été adoptée par le maire d'Angers à l'époque a été de préserver toutes les ambitions, les objectifs du projet, mais de reprendre les études, les plans avec les architectes pour essayer de contourner la question archéologique. Et donc, on a repris les plans, le travail sur les plans avec les architectes du cabinet Tétrarque, un cabinet nantais. Dès janvier 2024, on y a retravaillé là pendant 15 mois. Il y a eu un nouveau permis de construire modificatif. Et en fait, on a renoncé à créer un parking. En fait, dans le projet, outre la rénovation, il y a une grande extension de près de 2000 m² qui doit être construite à l'emplacement du parking, jusqu'à hauteur du beau séquoia. Et cette extension devait comporter un important sous-sol. Donc on a renoncé à la moitié de ce sous-sol, parce que ce sous-sol aurait été construit sous l'actuel parking. Et finalement, donc on le remplace par des fondations en micro-pieux. On va remblayer, en quelque sorte, on va avoir un rez-de-chaussée de l'extension qui sera construit presque sur pilotis remblayés. Et donc on perdait de cette façon-là 400 m², et les architectes ont été très astucieux. Ils ont trouvé différentes astuces, solutions qui font qu'à la fin du nouveau projet, on ne perd que 160 m² par rapport au projet qui avait été validé par permis de construire en 2023.
Et est-ce que, du coup, après cette découverte du cimetière et la rénovation énergétique qui va devoir être faite, parce que c'est apparemment une passoire thermique, est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels vous avez été confrontés pour le futur chantier? Tout à l'heure, hors antenne, vous parliez de désamiantage, parce qu'il y avait de l'amiante dans le bâtiment.
Oui, alors effectivement, comme beaucoup de bâtiments des années 1970, il a été isolé par des plaques d'amiante, donc il va falloir retirer. Donc le chantier commencera par plusieurs mois de désamiantage. Alors on a beaucoup de défis évidemment dans des projets de ce type. C'est un bâtiment de 6000 m² qu'il va falloir vider justement intégralement avant le désamiantage. On aura un bâtiment de 8000 m². Donc quand c'est meublé, c'est abondamment meublé. Donc on a presque 16 km de collection de documents, plus de 1000 m³ de mobilier. Et pour le désamiantage, il faut que le bâtiment soit entièrement vide. C'est la raison pour laquelle, en fait, alors que les travaux vont commencer, le désamiantage va commencer en juillet prochain, nous avons déjà repris le déménagement dès ce mois de mars, parce qu'il y en a pour plus de 4 mois de déménagement. On en avait fait un petit peu en 2023, et il en reste quand même une très grosse partie. Au total, c'est 6 mois de déménagement.
Justement, ce déménagement, on en parlera tout à l'heure aussi avec les services qui sont mis en place par la ville pour substituer justement à la fermeture de cette bibliothèque. Mais juste avant tout ça, on va passer à la Minute Sport avec toi, Paul.
La Minute Sport de Topette.
Bonsoir Nalouen, bonsoir à tous. Les Ducs d'Angers se hissent en finale de Ligue Magnus. Cholet Basket et l'UFAB confirment et Angesco Handball s'offre sa première victoire de la saison. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers. Bienvenue dans la Minute Sport. Et si c'était enfin l'année des Ducs d'Angers en hockey sur glace? C'est la question qui brûle les lèvres des supporters angevins après la qualification des coéquipiers de Robin Gaboury en finale des playoffs de la Ligue Magnus. Ça a eu lieu mercredi dernier au terme du quatrième match de la demi-finale contre les Boxeurs de Bordeaux, remporté 2-1. Angers décroche donc la série 4-0 et connaît depuis samedi soir son adversaire pour la finale puisque les Brûleurs de Loup de Grenoble se sont défaits des Gothiques d'Amiens. C'est donc un remake de la finale de la Coupe de France qui va se jouer entre les Angevins et les Isérois. En février, ce sont donc les Ducs qui avaient soulevé le trophée après une rencontre ultra serrée, 3-2. Ça, c'était donc pour la Coupe de France, mais pour la Ligue Magnus, la configuration est tout autre. Comme depuis le début des playoffs, les équipes devront se départager en 4 matchs à partir de vendredi. Les deux premiers se tiendront à Grenoble.
Et est-ce que Angers a ses chances?
Sur le papier, oui, l'entraîneur angevin, Jonathan Paredes a toutes les cartes en main pour mener ses joueurs au bout et à tous les postes, à commencer par le gardien Matt O'Connor qui culmine à 94,9% de palais stoppés face à Bordeaux, soit son plus haut niveau de la saison. En défense, Matt Prapavesis a inscrit 3 buts durant la série, dont 2 décisifs en prolongation. Et puis en attaque, Brady Shaw et Samy Tavernier sont tout simplement les deux meilleurs pointeurs des phases finales avec 13 points chacun. Mais voilà tout, Angers n'a jamais gagné la Ligue Magnus, malgré avoir disputé 4 finales. Et puis l'obstacle qui se dresse face au coéquipier de Robin Gaboury, ce n'est pas n'importe qui. Grenoble a terminé premier de saison régulière et a déjà été 8 fois champion de France. Ça promet, en tout cas, un duel ultra serré.
On passe désormais en basket avec une nouvelle victoire de Cholet.
Oui, toujours deuxième de Betclic Elite, les Choletais recevaient La Rochelle samedi sur leur parquet. Ils se sont imposés 83-77 au terme d'un match extrêmement compliqué et arraché à la force de caractère. À l'entame de la rencontre, le rapport de force s'équilibrait avant de voir les Rochelais accélérer dans le deuxième et le troisième quart-temps. Le score était de 60-69 à 15 minutes de la fin. Les coéquipiers de TJ Campbell repassent finalement devant après un dernier quart à 23-8 à leur avantage. La soirée est belle jusqu'au bout puisqu'à l'issue de la rencontre, le club a annoncé la prolongation de l'entraîneur Fabrice Lefrançois jusqu'en 2028. Il était arrivé dans les Mauges l'été dernier. Basket toujours, mais on passe chez les féminines de l'Union Angers, l'UFAB, qui remporte également son duel face à Lyon, 59-53. Un succès qui est établi grâce à une très belle seconde période et une Anna Ngo Njok en feu, auteur de 16 points. Avec cette victoire, l'UFAB remonte à la 5e place de Wonder League et commence doucement à voir s'ouvrir les portes des playoffs.
En handball, Angesco glane son premier succès de la saison.
Oui, c'était la fête à la salle du Hara vendredi après la victoire 30-21 des Noirs et Blancs face à Sarrebourg. Hasard du calendrier, la fanfare de l'école du génie avait été prévue pour soutenir les coéquipiers de Williams Manebar. Angers reste lanterne rouge avec 4 points. Dans le reste de l'actualité en cyclisme, le Cholet Aglo Tour avait lieu ce dimanche et c'est le Slovaque Lukas Kubis qui s'impose pour l'équipe Unibet devant le coureur français Benjamin Thomas pour Cofidis. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour une nouvelle Minute Sport.
Merci beaucoup Paul, on te retrouve dans 2 semaines et nous on est toujours en train de parler des bibliothèques d'Angers avec Marc-Édouard Gauthier, directeur des bibliothèques municipales d'Angers. Du coup tout à l'heure on parlait de la rénovation du bâtiment, le déménagement a déjà commencé, vous le disiez tout à l'heure. Comment ça se passe? Comment on fait pour déménager autant de mobilier et de livres?
Oui, donc c'est un vrai chantier à part entière dans la préparation de ce chantier de rénovation et d'extension de la bibliothèque Toussaint. Donc on a une entreprise qui nous accompagne. Contrairement à ce que à l'image courante qu'on peut se faire, les livres ne sont pas mis en carton, ils déménagent en armoire roulante et surtout il nous a fallu trouver des lieux de stockage importants. Grâce à la direction des bâtiments de la ville d'Angers, on a pu trouver 8 nouveaux sites tous intramuros qui nous permettent de disperser les collections sur tous ces sites. Donc ça va de, on a des certaines salles où on va pouvoir mettre 700 mètres et puis d'autres où on arrive à mettre jusqu'à 6 km de collection. Mais c'est un travail très très organisé, très structuré pour faire tous ces déplacements. Et puis il faut fournir le mobilier. On achète quasiment aucun mobilier nouveau pour ce déménagement. Donc c'est une alternance de déplacements, de collection, de mobilier pour optimiser ces transferts.
Alors pour les usagers du coup de la bibliothèque, il y aura une bibliothèque temporaire, je crois, qui va être mise en place, place Saint-Éloi. Quel service elle va proposer aux usagers?
Oui, alors c'est vraiment une chance à Angers, parce que beaucoup de bibliothèques qui entreprennent la rénovation ou la recréation de leur bibliothèque centrale, beaucoup de villes ne prévoient pas de service temporaire ou vraiment minimaliste, alors qu'on espère à Angers là offrir quelque chose de relativement satisfaisant. On sait bien que ce sera jamais aussi bien que Toussaint, mais on espère pouvoir pallier autant que possible cette période de travaux. Alors pour cela, on va avoir différents outils. On a d'abord une bibliothèque éphémère en centre-ville, qui sera à 100 mètres de Toussaint, sur la place Saint-Éloi, en face du musée des Beaux-Arts d'Angers, dans les anciens locaux de l'Institut Municipal. Vous savez que l'Institut Municipal, maintenant, est logé place Abac, dans l'hôtel de Livois, juste à côté de l'UATL. Donc, visiblement, il s'y déploie bien. Et du coup, le bâtiment dans lequel il se trouvait, qui offre 500 mètres carrés d'espace public, va accueillir la bibliothèque temporaire, qu'on va appeler bibliothèque Saint-Éloi, tout simplement, dans laquelle on aura presque un quart, entre 20 et 25% des collections empruntables de Toussaint, qui seront donc en libre accès. Il y aura quelques petits salons de lecture, pas autant de places assises qu'à Toussaint, évidemment. On peut pas passer de 2500 mètres carrés à 500 mètres carrés en offrant autant de qualité de service. Mais voilà, les livres les plus récents, ceux qui ont le plus de succès, seront tous disponibles. Il y aura même 250 mètres carrés encore pour la jeunesse, donc qui va pas trop perdre, puisqu'elles vont passer de 320 mètres carrés à 250. Et puis, donc ça, cette bibliothèque-là, elle sera ouverte aux horaires habituels de Toussaint. Et puis, on a voulu quand même que les Angevins puissent continuer d'emprunter toutes les autres collections. Les trois quarts de collections de Toussaint qu'on ne peut pas mettre, qui sont empruntables et qu'on ne peut pas mettre en libre accès. On va créer un service de prêt différé, une sorte de drive, en quelque sorte, qui permettra aux Angevins de réserver ces livres par Internet. Et puis, dans les 3, 4, 5 jours, on arrivera à les leur déposer à Saint-Éloi. Ils pourront aller les retirer et les emprunter de façon tout à fait normale. Donc ça, c'est un service qu'on va mettre en place à la rentrée scolaire prochaine, en septembre. Le temps de faire un récollement, parce qu'après le déménagement, on va vérifier que tout est bien en place. On doit déménager aussi toutes les données informatiques. Donc c'est un autre aspect du chantier. Et donc voilà, on s'accorde jusqu'à la fin du mois d'août pour bien vérifier que tout est bien calé avant de lancer ce service.
Et du coup, en plus de cette bibliothèque éphémère, est-ce que les bibliothèques de quartier vont aussi compenser la fermeture de Toussaint?
Alors évidemment, ça se ressent déjà. Il y a déjà une part du public de Toussaint, du public de centre-ville qui se reporte dans les bibliothèques de quartier. On les y encourage beaucoup. On les y encourage dès maintenant, puisqu'en fait, avec les déménageurs utilisant les ascenseurs l'ascenseur de Toussaint de façon très intensive, les horaires d'ouverture de Toussaint sont réduits. On est passé de 38 heures par semaine à 17h30. Donc là, depuis la semaine dernière, on est à ces horaires réduits jusqu'au 18 avril. Le 18 avril, on fermera complètement. Et donc, on invite les Angevins à fréquenter les bibliothèques de quartier qui ont bénéficié quand même, pour la plupart d'entre elles, pour beaucoup, 6 des 9 sites, ont fait l'objet de rénovations ces 4 dernières années, de façon, alors parfois d'agrandissement, comme la bibliothèque Mon Plaisir, ou l'extension, la ludothèque qui a été rajoutée à la bibliothèque Nelson Mandela, tout ça en 2023. Et donc, une partie du personnel de Toussaint va être déployée dans les bibliothèques de quartier aussi pour accueillir le public de Toussaint. Et donc, effectivement, on encourage très fortement les lecteurs. La bibliothèque Saint-Éloi ne pourra pas compenser complètement Toussaint, donc ils ont tout intérêt à profiter aussi du reste du réseau. Sur les 10 000 abonnés à Toussaint, il y en a 7 000 qui fréquentent déjà des bibliothèques de quartier, donc on a bon espoir qu'ils y trouvent satisfaction.
Est-ce qu'en plus de tout ça, il y aura des services numériques qui seront proposés, comme par exemple des livres numériques, des choses comme ça, en plus de ce qui est déjà proposé d'habitude pour compenser la fermeture ?
Oui, alors tout à fait. On a un service de PNB, ce qu'on appelle donc dans notre jargon, c'est-à-dire du prêt numérique en bibliothèque. Donc, ce qui permet aux abonnés de la bibliothèque d'emprunter, de télécharger des livres audio ou des livres numérisés à lire sur leur tablette ou leur smartphone. Et donc, c'était en phase de test depuis un peu plus d'un an. Maintenant, le service est bien stabilisé et donc on va pouvoir le développer davantage. Aujourd'hui, on a 1000 livres empruntables sous cette forme-là, mais ça va se développer dans les mois et années qui viennent. Puis pour les chercheurs sur les collections patrimoniales, on a mené aussi des grandes campagnes de numérisation ces dernières années qu'on va finir de mettre en ligne cette année. Donc, par exemple, tous les documents médiévaux seront sur Internet.
Il est bientôt venu l'heure pour nous de nous quitter. Du coup, est-ce que vous avez peut-être des informations pratiques à donner, peut-être concernant les horaires des bibliothèques? Où est-ce qu'on peut les trouver? Il y a un site internet?
Oui, alors vous pouvez nous retrouver sur le site internet bibliothèque.angers.fr, bibliothèque au pluriel. Et vous aurez également accès sur la une à une présentation du chantier avec des plans du futur Toussaint et puis tous les renseignements pratiques sur ces phases, ces différentes phases de déménagement, de fermeture de Toussaint, de réouverture de la bibliothèque Saint-Éloi à partir du 10 juin. Donc on ferme le service de lecture publique en centre-ville que cette semaine, du 18 avril au soir au 10 juin matin. Et donc vous pourrez retrouver toutes ces informations-là, toute l'exposition qu'on présente actuellement à Toussaint sur le chantier à partir de notre site internet.
Merci beaucoup Marc-Edouard Gauthier d'avoir répondu à nos questions dans Topette. Nous, demain, on sera avec Charles qui viendra du coup avec deux personnes arrivées du Québec pour échanger avec des élèves du collège Jean Rostand. Mercredi, on sera avec Quentin Ménard et François Gobert pour parler du cinéma Sprint. Jeudi, on sera avec le Quai. Et nous, on se quitte avec un podcast de Pensée Locale. Et moi, je vous dis à demain et Topette.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Vous entendez derrière moi l'eau de Luynes ruisseler au niveau du barrage de l'Épau au Mans. Et c'est ici que Le Mans Métropole a entrepris un projet de restauration de la continuité écologique de cette rivière de Luynes avec la mise en place d'une passe à poissons. Et pour en parler, nous sommes avec Hélène Thomas, technicienne GEMAPI à la direction eau assainissement de la Métropole. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Marcel Mortreau, vice-président délégué à l'eau et l'assainissement, la gestion des cours d'eau et la prévention des risques majeurs. Bonjour.
Bonjour.
Alors tous les deux, déjà peut-être expliquer ce projet de restauration de continuité écologique et de passe à poissons. Comment et pourquoi finalement la Métropole du Mans a souhaité mettre ça en place, Monsieur Mortreau?
Alors je dirais que c'est un projet ambitieux qui est conduit par Le Mans Métropole, qui vise trois objectifs. D'une part, je dirais fiabiliser la production d'eau potable, si on a une usine à proximité, c'est de restaurer la continuité piscicole et c'est d'avoir une production d'électricité. Et cette électricité qui sera produite permettra en partie d'alimenter l'usine de l'eau.
Un projet à plusieurs phases. On va surtout se concentrer, nous, sur cette continuité piscicole que vous évoquiez avec la création d'une passe à poissons, Hélène Thomas.
Donc, en fait, le barrage étant indispensable, comme vient de dire M. Mortreau, pour la création d'eau potable, il crée malheureusement une chute que les poissons ne peuvent pas remonter comme ça. Donc, du coup, on a créé une passe à poissons, une passe à bassins successifs, afin que les poissons puissent remonter de l'aval en amont pour aller se reproduire sur le bassin versant de l'Huisne dans des cours d'eau plus petits. Donc ça fonctionne comme un escalier en fait, c'est plein de petits bassins avec des petites marches que les poissons peuvent franchir en nageant.
Si on essaye de donner un peu d'image à la radio, je sais que c'est pas forcément évident, de ce que l'on a là en face de nous, comment ça se caractérise et comment ça se met en place finalement ?
Sous le pavillon, sous le bâtiment, donc il y avait une ancienne turbine qui a été retirée et on a créé différents bassins qui zigzaguent sous ce bâtiment pour ressortir. Donc il y a un certain débit qui va passer par cette passe et les poissons qui vont arriver à l'aval vont se rendre compte qu'il y a ce débit et ils vont donc être attirés et puis ils vont pouvoir rentrer dans la passe et franchir les différents bassins.
C'est des travaux qui ont commencé en juin 2024 et qui vont se terminer, qui devraient être terminés en fin d'année avec, pour terminer, l'aménagement des berges qui sont à proximité.
L'idée, en fait, c'est de restaurer la continuité écologique sur l'Huisne dans toute la traversée du Mans, puisque effectivement, le Mans, en fait, c'est le début du bassin versant de l'Huisne et que si on veut améliorer la circulation piscicole, mais également sédimentaire, puisqu'il y a aussi les sédiments qui doivent circuler, eux, dans le sens inverse, hein, d'amont vers l'aval, il faut restaurer cette ouverture.
Ça concerne forcément toute la biodiversité de l'Huisne, mais aussi les habitants autour de la rivière. Les pêcheurs, notamment, s'inquiétaient de ne plus avoir de poissons dans l'Huisne, ce ne sera pas le cas.
C'est justement l'inverse. L'objectif, c'est qu'ils puissent circuler et aller se reproduire en amont. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a concerté avec les gens pour avoir leur avis, pour pouvoir amender notre projet par rapport à des choses auxquelles on n'aurait potentiellement pas pensé. Donc on les avait déjà rencontrés, une partie des personnes en septembre. Donc là, on les a revus le 7 février. Donc le projet, il est amendé à la marge avec les petits éléments qu'on nous a demandé et qui sont possibles d'intégrer. Donc ensuite, les berges seront restaurées, mais il y aura également des aménagements au niveau du plan d'eau de l'île aux sports pour maintenir le plan d'eau. Donc il y aura des zones de pêche qui seront aménagées. Il y a aussi les kayaks. En enlevant le barrage de Pontlieu, on va permettre une diversification des écoulements. Donc ça va permettre d'avoir effectivement en plus des nouveaux habitats pour les poissons et de nouveaux lieux de reproduction. Mais ça permettra aussi de refaire un certain nombre de berges, donc de favoriser les habitats aussi sur les berges, la nidification des canards et autres. Donc c'est vraiment un projet global pour la biodiversité.
Eh bien, merci beaucoup Hélène Thomas. Merci également Monsieur Marcel Mortreau de nous avoir parlé aujourd'hui de ce projet de passe à poissons sur la rivière de l'Huisne. Et on se dit à bientôt sur notre antenne.
Pensée locale, un enjeu de société.
Nous sommes maintenant en ligne avec Katia Chancibaud, chargée de recherche développement durable à l'université Gustave Eiffel de Nantes. Bonjour.
Bonjour.
Alors Katia Chancibaud, vos recherches sont tournées vers l'hydrologie en milieu urbain. Et ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission. Racontez-nous un peu autour de quoi s'articulent vos travaux.
Alors je m'intéresse à l'adaptation des villes au changement climatique et en particulier sur les problématiques de gestion des eaux pluviales et du confort thermique. En effet, les solutions qui permettent de s'adapter au changement climatique, d'un point de vue de la gestion des eaux pluviales, finalement, peuvent aussi, pour nombre d'entre elles, avoir des bénéfices aussi pour le confort thermique.
Alors, votre domaine ne concerne pas forcément les questions de continuité écologique, hein, comme dans notre reportage au bord de l'Huisne, mais vous vous intéressez tout de même forcément aux rivières en milieu urbain. Et quels sont un peu les intérêts d'intégrer, de préserver ces rivières dans ces milieux-là, que ce soit l'Huisne ou d'autres cours d'eau?
Alors, en effet, parmi les solutions d'adaptation des villes au changement climatique, il y a ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et la réouverture des cours d'eau en milieu urbain fait partie de ces solutions. Si la réouverture des cours d'eau en milieu urbain facilite et permet la continuité écologique, elle permet aussi de mieux gérer les eaux pluviales en ville en essayant de retrouver un fonctionnement plus naturel des écoulements que la zone connaissait avant urbanisation. Donc, réouvrir ces cours d'eau, c'est permettre de retrouver un cycle de l'eau localement qui correspond en fait à ce qu'on retrouve en milieu non urbanisé.
De plus en plus de collectivités s'intéressent à cette méthode, à ce modèle-là.
Oui, donc à Nantes, il y a eu ce genre de travaux qui ont été menés avec le ruisseau des Goars. Dans un quartier, toute une partie de ce ruisseau a été réouvert et réaménagé pour permettre à la population dans le quartier d'avoir accès à ce ruisseau et de bénéficier de zones de promenade. Donc ça a un double intérêt. En plus de la gestion des eaux pluviales, ça permet aussi aux habitants de se réapproprier en fait ce type de petite rivière urbaine. Il me semble aussi que Nice fait partie des villes qui ont utilisé ce genre de travaux, et de nombreuses autres villes probablement que je ne connais pas, mais oui, c'est de plus en plus courant désormais.
Vous travaillez aussi au développement d'un modèle urbain hydro-microclimatique. Expliquez-nous ce dont il s'agit.
Alors en fait, pour étudier la performance de ces solutions d'adaptation, pour conseiller les collectivités, leur indiquer quelles solutions privilégier par rapport à une autre selon les conditions locales et les enjeux auxquels ils essayent de répondre, on a besoin évidemment de mieux comprendre comment ces solutions fonctionnent et donc d'évaluer leur performance. Alors on dispose pour ça de données observées, mais ça nécessite beaucoup de travail, de l'argent, du temps passé pour expérimenter, instrumenter de nombreuses solutions. Donc on a pour ça des outils numériques qui nous permettent d'aller les frais qu'on pourrait avoir et puis le temps passé. On limite l'instrumentation de ces ouvrages et on peut simuler tout un grand panel, un large panel de solutions en les testant avec des solutions qui sont, elles, instrumentées, puis ensuite en testant dans des conditions différentes. Et ça nous permet, en plus, les modèles, de tester un déploiement de ces solutions dans une ville future pour aider les collectivités à comprendre l'impact de certaines solutions par rapport à d'autres, ou même éventuellement à tester des scénarios d'aménagement futurs et de voir dans quelle mesure les solutions, les scénarios d'adaptation qu'ils ont envisagés ont un réel effet sur les problématiques auxquelles ils essaient de faire face.
Eh bien, merci beaucoup, Katia Chancibaud, d'avoir répondu aujourd'hui à nos questions pour l'émission Pensée locale, une émission spéciale sur les enjeux de l'eau. Et je rappelle que vous êtes chargée de recherche développement durable à l'Université Gustave Eiffel de Nantes. Merci à vous.
Merci à vous.
C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
Reportage et interview signé Benoît Porcher pour RCF Sarthe.
Radio G.
Le franchement bon départ, j'ai rêvé pour de vrai, le marchand de sable est passé par là. J'ai troqué la bande son d'un passé bancal où mon seul choix fut d'affronter celui qui me terrifiait sous mon toit. 6h du mat, on commençait sur le cahier de mathématiques. Les cris fusent et les debout derrière moi c'est la panique. En plus c'est naze, j'ai rien dans le ventre à part cette dose de foutu cortisol. Rien d'anormal, ce soir tu sens que je m'isole. Viennent les coups, les blessures, la peur de ma seule figure masculine qui me fissure. Ferme ta gueule et rase-moi ces murs. Je sais que ma petite soeur m'écoute, tu sais j'ai la frousse comme toi. Ce texte me coûte plus que tu ne crois, j'ai de nouveau peur de rentrer chez moi. Maman efface tes regrets, j'étais le premier des enfants, difficile de me protéger. Ne penses-tu pas que je le sais? Et par sentiment, tu as même fermé tes yeux sur cette violence quotidienne. Et je t'aime droit dans les deux. Je fais un tour chez les psychiatres, ils sont tous unanimes. Alors j'accepte la thérapie, mais sur la longueur ça m'abîme. Ma mère finance le voyage 3 fois par mois dans la capitale. I9, Ranelagh, je pose un pied sur le quai tant bien que mal. Vu que dehors c'est l'horreur, je me prends tout en pleine face. Demain je ne serai pas à l'heure, laisse-moi une place au fond de la classe. Il est tard, j'ai de nouveau peur que mon beau-père me fracasse. Des mots, des coups, comprends que ce choix me tracasse.
Want me to forgive you for the pain you've done and family inside. Knock on my door, but it's my heart, your hand me, yeah. I don't really know if I could. I don't really know if I want to.
Cette année je vais passer l'hiver, je sens qu'il fait moins froid qu'hier. J'ai laissé quelques notes et une phase dite pour mon petit frère. Je sais que parfois t'es solo, incompris ou même sous l'eau. Est-ce que tu pleures en secret quand s'affiche mon numéro? C'est en si moral à zéro, alors je bosse un peu ma scéno. Passe me voir quand on retourne les foulards rage au micro.
I'm trying to find a reason for the scares you left me. Even though you've been through steals, it's my body that's healing.
Want me to forgive you for the pain you've done and family inside there. my heart, your hand me yet. But I don't really know if I could. I don't really know if I want to.
If I want to.
Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.